Bonjour et bienvenue dans notre plongée au cœur de l'actu tech du jour. Nous sommes le vendredi 27 février 2026 et franchement, il s'est passé quelque chose de particulièrement sismique hier dans l'écosystème de l'intelligence artificielle.
Ouais, un véritable tremblement de terre.
C'est le mot. Donc Google a officiellement déployé Nano Banana 2.
Ou pour être précis, si on regarde les dépôts de code et ce qui sort des labos, c'est Gemini 3.1 Flash Image. Mais bon, Nano Banana 2, c'est le nom qui circule.
Exactement. D'accord, décortiquons tout ça parce que la pile de documentation qu'on a réunie pour cette analyse elle est assez vertigineuse en fait.
Tu m'étonnes, j'ai passé la nuit dessus.
Pareil, on a épluché les modèles cartes officiels de Google DeepMind, la doc technique de l'API Gemini pour les développeurs et les nouvelles grilles tarifaires qui viennent de tomber.
Sans oublier les benchmarks indépendants de TechCrunch et de Decoder.
Absolument. Mais le truc le plus croustillant, c'est qu'on a mis la main sur un document de recherche interne, un truc strictement confidentiel, qui vient de la plateforme YouRender.ai.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Totalement. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'architecture de ce modèle, de voir comment il cannibalise ou complète la version pro qui est sortie l'an dernier, et surtout de comprendre pourquoi ce lancement marque une rupture totale dans la façon dont l'industrie intègre la génération d'images.
Si l'on relie cela au contexte global, la véritable histoire ici, c'est pas de savoir si ce modèle génère des images plus jolies que le précédent.
On n'est plus là-dedans.
Non, on est complètement sorti de la phase d'expérimentation artistique. L'enjeu actuel, c'est l'industrialisation pure et dure.
C'est devenu une commodité, en fait.
Exactement, au même titre que l'hébergement cloud ou que la bande passante, quoi. Ce que ce lancement montre, c'est une transition vers des modèles qui sont conçus d'abord pour la vitesse d'exécution, la logique sémantique et c'est plus important, la viabilité économique à grande échelle.
Donc on passe du gros outil de démo technologique à un rouage invisible et super bon marché que des milliers d'applications SaaS vont pouvoir intégrer en arrière-plan.
C'est un changement de paradigme fondamental.
Bon, entrons dans la salle des machines. Nano Banana 2 remplace le modèle qui était basé sur Gemini 2.5 Flash et il s'installe carrément comme le moteur par défaut dans toute l'interface grand public de Gemini.
Ce qui est déjà un signal fort de la part de Google.
Et sur le papier, les spécifications techniques frappent vraiment fort. Le modèle gère des résolutions qui vont d'un tout nouveau format ultra-léger de 512 pixels pensé pour les itérations quasi instantanées, et ça pousse jusqu'à la 4K.
Et sans compter qu'il se limite plus du tout au format standard.
Ah oui, on parle de 14 ratios d'aspects différents, avec des trucs extrêmes comme du 1.8 ou du 8.1.
Et ces ratios extrêmes, faut bien comprendre qu'ils sont cruciaux pour le développement web moderne.
Surtout pour les bandeaux publicitaires ou les interfaces, non?
Exactement. Pour la génération dynamique, de bannières panoramiques ou des éléments d'interface utilisateur très spécifiques. Avant, les anciens modèles, dès que tu t'éloignais du bon vieux format carré, ils te sortaient des aberrations visuelles pas possibles.
Des têtes étirées, des bras rallonges, ouais.
Là, c'est fini. Mais franchement, la spécification qui fait le plus de bruit, c'est la fenêtre de contexte.
Le million de tokens.
Voilà. Pour les gens qui ont l'habitude de manipuler des modèles de langage texte, l'LLM classique, on sait ce que ça représente un million de tokens. Mais pour la génération d'images, c'est un saut conceptuel massif.
Parce qu'on ne parle plus juste de taper un prompt très détaillé.
Non, plus du tout. Un développeur aujourd'hui peut littéralement injecter l'intégralité d'une charte graphique d'entreprise, genre le manuel PDF de 200 pages.
Ou même une documentation de design système entière.
Exactement. Ou le code source complet d'une interface front-end. Tout ça en guise de contexte, avant même de demander au modèle de générer le premier pixel.
C'est fou. Et du coup, ça débloque quoi concrètement?
Ce qui est fascinant ici, c'est la précision du rendu textuel. C'est la capacité de traitement du contexte qui débloque ça. On sait que c'était le problème historique de l'IA générative.
Le fameux texte façon alphabet extraterrestre.
Voilà, demander à une IA d'écrire un texte dans une image, ça finissait toujours en bouillie de lettres incompréhensibles. Mais l'Anno Banana 2 atteint un seuil de précision critique sur ce point.
J'ai vu les démos, c'est bluffant. Ils génèrent du texte parfaitement lisible pour des affiches, des maquettes d'interface ou des diagrammes hyper complexes.
Et mieux encore, sa compréhension du contexte lui permet de localiser et de traduire ce texte directement au sein du fichier généré.
C'est là que l'application de démonstration Global Ad Localizer rentre en jeu. Dans la documentation, il montre une agence qui conçoit une campagne internationale.
Exemple classique.
L'application utilise le modèle pour prendre une pub avec une typo très spécifique. Elle comprend la structure visuelle et paf, elle génère instantanément 50 déclinaisons.
avec le texte traduit dans toutes les langues cibles.
Tout en respectant l'espacement, la police et même les jeux de lumière sur les lettres, c'est le genre de truc qui prenait des jours entiers à une équipe d'infographistes.
C'est un gain de temps incalculable. Et puisqu'on parle de comprendre le monde réel, faut absolument qu'on s'arrête sur la fonction de grounding.
Ah oui, l'ancrage sémantique.
C'est vraiment là que l'intégration de tout l'écosystème Google prend son sens. Contrairement à un modèle isolé qui hallucine un peu à partir de sa base d'entraînement statique, Nano Banana 2 interroge Google Search.
Et la base de données d'images en temps réel pour vérifier les faits avant même de commencer le rendu.
Là, le modèle ne va pas juste dessiner un faux Tokyo avec des nuages au hasard.
Pas du tout. Il va chercher la météo actuelle à Tokyo, la couverture nuageuse en direct, l'heure locale pour avoir le bon angle du soleil.
Et il te génère une vue photoréaliste qui correspond à la réalité exacte de la minute présente.
C'est dingue! Ou l'autre exemple, tu lui demandes un graphique météo sur 5 jours pour San Francisco et il trace une infographie exacte en allant chercher les vraies prévisions. On est à des années-lumière de la simple génération d'illustrations.
Et cette exigence de cohérence, elle s'étend aussi à la gestion des personnages et des objets.
Qui a toujours été le pire cauchemar des créateurs de contenu qui bossent sur des séries d'images.
Totalement. Les fiches techniques montrent que ce modèle peut verrouiller et maintenir l'identité visuelle de 5 personnages distincts et jusqu'à 14 objets différents tout au long d'une session.
Alors j'ai lu que l'intégration actuelle dans Google Workspace limite ce nombre à 10 objets.
Oui, mais ça c'est juste artificiel pour des raisons de stabilité de l'interface utilisateur. Le moteur sous-jacent, lui, il tient les 14 sans broncher. C'est d'une robustesse inédite.
Pour illustrer ça, ils ont sorti la démo du pet passeport. En gros, tu fournis l'image d'un animal de compagnie, mettons un Jack Russell, avec une tache asymétrique super spécifique sur l'œil.
Et ensuite, tu peux générer une centaine d'images de ce même chien dans des environnements différents.
Avec des angles de caméra complètement opposés, de focales variées, et la géométrie de la tache, les proportions de l'animal, tout reste strictement identique.
C'est l'outil ultime pour le storyboarding ou pour la création de catalogues produits.
C'est clair. Mais du coup, face à un tel déluge de capacités, on est quand même obligé de se poser la question, comment ce modèle se positionne-t-il par rapport au poids lourd qui est sorti il y a quelques mois, le fameux Nano Banana Pro ?
Eh bien, la cannibalisation semble presque totale.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est ce que montre le document interne de YourRender.ai.
Oui. Leur équipe technique a mené des benchmarks impitoyables là-dessus. Leurs données montrent que Nano Banana 2 atteint à peu près 95% de la qualité pure du modèle Pro.
Mais en accomplissant le rendu 3 à 5 fois plus rapidement.
Voilà. Et un tel delta de performance, ça remet complètement en question l'utilité d'un modèle plus lourd pour 90% des tâches commerciales.
Mais attends, on connaît bien ce genre de promesses dans l'industrie tech. Le coût du 95% de la qualité pour une vitesse multipliée par 5, c'est le discours de relations publiques classique à chaque lancement.
C'est vrai, faut toujours s'en méfier.
Est-ce que les benchmarks externes confirment vraiment cette intelligence prétendue du modèle? Ou est-ce qu'ils compensent simplement avec un peu d'optimisation cosmétique?
C'est la bonne question à poser. Et l'analyse indépendante menée par The Decoder apporte justement une nuance vitale.
Ils ont testé quoi exactement?
Ils ont mis de côté la beauté pure des pixels pour tester la capacité de raisonnement pur du modèle. Ils ont utilisé une requête très simple en apparence, mais redoutablement complexe pour une IA.
Vas-y, dis-moi.
Ils ont demandé de générer l'image d'un cheval chevauchant un humain.
Un cheval sur le dos d'un humain, hein? L'ingénieur qui a conçu ce test voulait juste faire exploser les serveurs, c'est pas possible.
C'est complètement à l'encontre de la logique statistique, oui.
Bah oui, un modèle génératif standard se contente d'aplatir les statistiques de sa base de données.
Exactement. Il a vu des millions d'humains sur des chevaux dans ses données d'entraînement. Donc, face à cette requête, le modèle de base va tout simplement ignorer l'inversion et générer un cavalier normal sur son cheval.
Il échoue au test sémantique tout bêtement.
Voilà. Nano Banana Pro réussissait ce test haut la main grâce à sa taille gigantesque. Mais ce que The Decoder a prouvé, c'est que ce nouveau modèle, pourtant bien plus léger et rapide, réussit aussi l'épreuve.
Ah ouais, hein ?
Il comprend l'inversion. Il comprend la structure logique de la phrase, même si elle contredit toutes ses probabilités visuelles. Il te dessine vraiment le cheval sur le dos du gars.
D'accord, donc la logique est intacte, le cerveau est bien là. Mais quid de l'esthétique pure ?
Sur ce point, The Decoder confirme qu'il y a quand même un léger compromis. Faut pas rêver. Le modèle Pro conserve une suprématie sur la microdynamique de l'image.
Le grain photographique, ce genre de choses.
Oui, le réalisme extrême des textures complexes, comme le grain de la peau ou les textiles superposés. Le rendu de Nano Banana 2, s'il est techniquement parfait, a parfois tendance à présenter un aspect très légèrement plus lissé.
Un peu plus synthétique, quand on zoome à 200%, quoi.
C'est ça.
Et ce lissage, il s'explique techniquement par le processus de génération lui-même. J'ai lu dans la documentation qu'il détaille un mode thinking, un processus de réflexion interne.
Oui, c'est fascinant comme approche.
Concrètement, le modèle ne crache pas une image en un seul passage. Il génère jusqu'à 2 images intermédiaires, qui restent totalement invisibles pour l'utilisateur, juste pour évaluer sa propre composition.
Il vérifie l'anatomie, il corrige le tir avant de produire le résultat final.
C'est comme s'il faisait des brouillons au crayon avant d'ancrer.
Et la véritable innovation pour les développeurs qui utilisent l'API, c'est que ce paramètre de réflexion n'est plus une boîte noire intouchable. Ils peuvent désormais ajuster manuellement ce niveau de thinking.
Comment ça marche en pratique ?
Par défaut, c'est réglé sur un niveau minimal pour privilégier la latence, pour que ce soit ultra rapide. Mais pour une application architecturale ou médicale, par exemple, un développeur peut forcer le curseur au maximum.
D'accord. Donc, le temps d'attente va augmenter un peu.
De quelques secondes, oui. Mais le modèle va prendre le temps de générer plus de brouillons internes pour garantir une exactitude géométrique sans faille.
Mais du coup, si ce nouveau modèle fait pratiquement tout beaucoup plus vite et avec des paramètres de réflexion ajustables, le modèle pro se retrouve dans une position super délicate.
Il se retrouve carrément relégué au second plan.
Les documents officiels confirment qu'il perd son statut de modèle par défaut. Il est désormais planqué derrière un menu déroulant, exclusivement accessible pour les abonnés Google AI Pro et Ultra.
Ça devient un outil de niche absolu.
Réservé aux directeurs artistiques ou aux gros studios pour qui le temps de génération n'a aucune importance et qui exige vraiment le petit pourcentage de textures supplémentaires.
Et cette relégation du modèle pro vers une utilisation hyper spécialisée, elle s'explique d'autant plus qu'on analyse la stratégie agressive de Google sur le volet tarifaire.
Qu'est-ce que tout cela signifie pour le marché ?
Eh bien, c'est ici que l'impact sur l'industrie du logiciel SaaS devient massif.
Les chiffres de l'API Gemini parlent d'eux-mêmes. C'est une vraie casse des prix. Pour générer une image en résolution 1K standard, Nano Banana 2 est facturé 0,067 $.
À peine plus d'un demi-centime.
C'est ça. À titre de comparaison, le modèle Pro coûtait 0,134 $ pour la même requête. On parle d'une réduction nette de 50% des coûts d'infrastructure d'un coup.
Et sur les grosses résolutions ?
Pour le format 4K, le tarif passe de 24 centimes à 15 centimes. Et le fameux nouveau format ultra rapide de 512 pixels dont on parlait au début, il est proposé à un tarif plancher de 0,045 $ l'image.
Il faut vraiment bien mesurer l'impact de ces fractions de centimes. Pour toi ou moi, en tant qu'utilisateur individuel, c'était visible.
Oui, sur 3 images, on s'en fiche.
Mais pour une plateforme de e-commerce qui génère des dizaines de milliers de mock-ups produits dynamiques par heure, ou pour un studio de jeux vidéo qui utilise l'API pour générer des textures à la volée, on parle d'une division par deux de la facture des serveurs, du jour au lendemain.
C'est un argument de vente tout simplement irrésistible.
Surtout que Google s'est assuré que la friction d'intégration soit proche de zéro. Le modèle est déployé simultanément sur tous les points d'accès possibles.
L'API Gemini Standard, Google AI Studio pour le prototypage, Vertex AI pour les grosses infrastructures d'entreprise.
Leur nouvelle plateforme anti-gravity pour les agents autonomes et même Firebase pour les devs mobiles. Ils arrosent tout le monde.
Et la documentation souligne un détail super intéressant pour les fonctions d'édition avancées.
Genre l'inpainting.
Ah oui, pour modifier juste une zone d'une image existante.
C'est ça. Logiquement, le développeur doit envoyer l'image originale en référence. Eh bien, ce transfert de l'image source est facturé à un tarif symbolique de 0,0011 $.
Pratiquement gratuit.
Mais cette démocratisation et cet effondrement des coûts, ça pose inévitablement la question de la gestion à l'échelle.
Ah, la sécurité ?
Oui. Comment empêcher qu'un modèle aussi performant et aussi peu coûteux ne serve à inonder le web de désinformation ou de contrefaçon commerciale à un rythme industriel ?
La réponse de Google, elle se trouve dans une double couche de métadonnées et de filigranes. Et c'est traité non pas juste comme de vagues considérations éthiques, mais comme des vrais standards de sécurité industriels.
Pour rassurer les clients d'entreprise, c'est indispensable.
La fiche technique est catégorique là-dessus. Premièrement, le filigrane SynthID. Google précise qu'il a déjà fait ses preuves. Il a été appliqué plus de 20 millions de fois dans l'écosystème Gemini depuis novembre dernier.
Et on rappelle que ce n'est pas un petit logo visible dans le coin de l'image.
Non, c'est un marquage cryptographique intégré directement dans la matrice des pixels. C'est totalement invisible à l'œil nu. Et c'est inaltérable par la compression JPEG ou même si on recadre l'image.
Et c'est détectable de manière algorithmique pour prouver de façon irréfutable l'origine synthétique.
Et la deuxième couche s'appuie sur le standard C2PA, les fameux Content Credentials.
Ah, ça c'est énorme pour la traçabilité.
Chaque fichier généré par l'API embarque un historique crypté dans ses métadonnées. C'est littéralement le passeport numérique du fichier.
Qui certifie quel modèle l'a créé, à quelle date exacte, et s'il a subi des modifications ultérieures.
Exactement. Pour une banque, un média ou un site de e-commerce, cette traçabilité est une condition sine qua non avant tout déploiement en production. Sans cela, le risque juridique serait juste ingérable.
Ce qui nous amène tout naturellement à la pièce de résistance de notre pile de sources. Le fameux document de recherche interne de Urender.ai qui a fuité.
C'est le cas pratique parfait pour comprendre la secousse qui traverse l'industrie en ce moment même. Urender.ai, c'est une plateforme bien établie. Il propose déjà plus d'une vingtaine de modèles d'IA différents, dont le Nano Banana Pro d'ailleurs.
Et pourtant, le document révèle qu'ils ont intégré ce nouveau modèle 2 dans leur studio premium à l'instant même où l'API a été rendue publique.
Cela soulève une question importante. Pourquoi une telle urgence?
Parce que c'est une décision d'ingénierie qui en dit long. Changer un modèle par défaut ou en rajouter un nouveau dans un pipeline de production qui sert des milliers de professionnels qui payent des abonnements, c'est un risque opérationnel énorme.
Faut réécrire des requêtes, tester les limites de charge des serveurs, adapter toutes les interfaces.
Voilà, c'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête un jeudi matin. S'ils l'ont fait avec une telle urgence, c'est que le retour sur investissement était foudroyant. Le document interne met en lumière un concept clé pour leurs utilisateurs commerciaux, la Brand AI.
L'intelligence artificielle de marque.
C'est ça. Leurs clients, c'est pas des artistes qui viennent chercher de belles images abstraites. Ce sont des marques qui ont besoin de générer des photographies de leurs propres produits de manière industrielle.
Tout en conservant une identité visuelle stricte, la colorimétrie, le style d'éclairage, l'ambiance, sur des centaines de visuels différents.
Et jusqu'à cette semaine, ces utilisateurs étaient coincés dans un compromis super douloureux. Soit ils payaient très cher et attendaient longtemps en utilisant le modèle pro pour garantir cette constance.
Soit ils utilisaient des modèles rapides, mais ils passaient des heures à faire du tri manuel derrière parce que l'identité de la marque n'était pas respectée.
Nano Banana 2 vient littéralement résoudre cette équation. Urender.ai offre désormais à ses clients commerciaux la capacité de maintenir cette cohérence visuelle chirurgicale.
Avec un rendu typographique parfait pour les emballages produits en plus.
Le tout à une vitesse fulgurante et pour une fraction du coût en serveur.
Donc au final, la marge bénéficiaire de la plateforme augmente et la rétention des utilisateurs grimpe en flèche.
C'est du gagnant-gagnant. L'analyse concurrentielle incluse dans ce brief est d'ailleurs d'une lucidité assez brutale. Leurs ingénieurs ont comparé ce nouveau modèle aux autres poids lourds du marché.
J'ai vu ça.
Face à DALL-E 3 d'OpenAI, le constat est sans appel.
Nano Banana 2 offre un contrôle typographique largement supérieur et il a l'avantage massif d'une sortie native en 4K, là où DALL-E reste complètement limité sur les hautes résolutions professionnelles.
Et la confrontation avec Midjourney est tout aussi intéressante. L'équipe de Urender admet volontiers que Midjourney conserve sa couronne sur la direction artistique pure.
L'esthétique, waouh, les rendus super cinématiques.
C'est ça. Mais, et c'est un grand mais, l'IA de Google obéit de manière beaucoup plus rigoureuse aux instructions complexes et aux contraintes spatiales.
Si on demande à Midjourney un objet précis à 5 cm d'un autre avec un texte spécifique en arrière-plan en gras,
le résultat sera magnifique, mais il sera probablement inexact. Nano Banana 2, lui, va exécuter la commande à la lettre. C'est la différence entre engager un artiste brillant mais capricieux et un technicien d'imagerie extrêmement fiable.
C'est une excellente comparaison. Le document mentionne aussi Flux 2, le modèle open source qui est très en vogue en ce moment.
Oui, Flux 2 permet une liberté de personnalisation en local qui est incroyable, c'est vrai. Mais les ingénieurs de Urender notent que l'IA de Google l'emporte encore une fois largement sur la logique de composition.
Et sur l'exactitude sémantique, quand on fait des requêtes avec beaucoup de variables.
Pour résumer un peu cette analyse concurrentielle, Google n'essaye pas du tout de gagner les concours d'art génératif sur les réseaux sociaux. Ils ont construit le tracteur de l'industrie.
Un tracteur robuste, hyper logique, hyper économique.
Et capable de tirer des charges super lourdes dans n'importe quel pipeline d'entreprise.
Et c'est vraiment la conclusion qui se dégage de toute cette pile de sources d'aujourd'hui. Ce qu'on est en train d'observer, c'est l'effondrement spectaculaire de la barrière d'entrée vers la qualité studio-industrielle.
C'est exactement ça.
Qu'il s'agit d'une start-up SaaS qui cherche à réduire sa facture d'API de 50% ou d'une agence de publicité qui utilise l'ancrage réel pour générer des campagnes dynamiques localisées ou même un développeur qui exploite le contexte d'un million de tokens pour injecter des bases de données entières, les règles du jeu viennent de changer.
Les flux de travail sont accélérés par un facteur de 3 à 5.
Pour la moitié du prix.
C'est un tour de force d'ingénierie, ça c'est indéniable. Et de stratégie commerciale. Mais, parce qu'il y a un mais,
toute cette architecture très sophistiquée, elle repose sur une mécanique qui soulève une interrogation fondamentale à long terme.
Laquelle ?
Si on regarde à confirmement les notes de bas de page des fiches techniques, on découvre un détail crucial. Les poids du modèle Nano Banana 2, donc ses connaissances figées lors de l'entraînement, s'arrêtent à janvier 2025.
D'accord, donc si on lui demande un événement qui s'est passé en septembre 2025 ou aujourd'hui en 2026, il ne le sait pas de manière innée.
Exactement. Et c'est là que le fameux grounding, l'ancrage, intervient.
Il va lancer une recherche web et analyser des images Google en temps réel pour compenser ce manque et s'ancrer dans la réalité présente.
Voilà. Il utilise le web d'aujourd'hui pour vérifier à quoi ressemble le monde. Et c'est précisément ici que se situe le point aveugle de toute cette industrie.
Attends, si le web se remplit chaque jour de millions d'images générées artificiellement, justement grâce à des outils aussi rapides et peu coûteux que ce modèle...
On y vient.
Et que le modèle utilise la recherche d'images en temps réel pour savoir à quoi ressemble la réalité.
Nous y sommes. On touche au concept de l'ouroboros numérique, le serpent qui se mord la queue. Que va-t-il se passer dans 18 mois, lorsque ce modèle, pour vérifier l'apparence d'un nouveau modèle de voiture, par exemple, ou d'un événement d'actualité, va s'ancrer sans le savoir sur des images qui ont été synthétisées par une autre intelligence artificielle?
Ah, c'est vertigineux. Même avec des boucliers comme SynthID ou C2PA, on risque de créer une boucle de rétroaction infinie.
Où les IA s'inspirent des hallucinations d'autres IA, pour définir ce qui est réel.
Et elles génèrent ensuite de nouvelles images qui viendront à leur tour polluer la base de recherche des suivantes.
La réalité en temps réel du web pourrait lentement se déformer pour devenir finalement qu'une moyenne statistique des interprétations synthétiques successives. C'est le défi silencieux, mais monumental, de l'ère de l'IA industrialisée.
Une perspective fascinante et franchement un peu inquiétante qui fera sans aucun doute l'objet de nombreuses discussions dans nos prochaines analyses. C'est tout pour notre plongée du jour. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration technique et à très bientôt pour décrypter la prochaine secousse de la tech.